Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Internet, la dernière bataille démocratique. Bonjour à tous et toutes. Les espoirs suscités par l'apparition d'Internet ont-ils été déçus? Pourquoi la belle démocratie virtuelle attendue s'est-elle transformée en une immense caisse de résonance des haines, des radicalités politiques, des propagandes et des rumeurs? Et ce constat même est-il à nuancer, en regardant aussi tout ce qui marche sur le web? Car malgré la place prise par les réseaux sociaux, Internet tend à devenir un espace démocratique quand même, avec des lieux d'échange, des sites pour chaque cause et des initiatives de lutte contre les violences verbales qui polluent les aspirations démocratiques de nombreux citoyens. L'impression d'un désenchantement est tout de même notable. L'impression qu'on pourrait faire autrement et que le web mérite mieux que sa cannibalisation par des entreprises privées et des algorithmes froids. L'impression que la génération des millennials n'a pas pris la mesure du formidable outil qu'elle a entre les mains. L'impression encore qu'Internet s'est transformé en une série de compartiments étanches où groupes et tribus ne connaissent qu'eux-mêmes et n'échangent qu'en interne dans des formes de ghetto cognitif d'où il est difficile de les faire sortir. L'essor du conspirationnisme, par exemple, s'explique essentiellement par cet entre-soi d'où toute information externe est bannie. Les 100 voix ont finalement donné de la voix, mais chacun a pu entendre qu'elle était de fausser. Internet est devenu une machine à fausses nouvelles, là où l'on attendait du débat informé. Ce problème des fausses nouvelles n'est pas seulement technologique, il est culturel, dit mon invité Romain Badoire. Une étude conduite en 2016 à l'université de Stanford sur 7800 jeunes montrait qu'une majorité d'entre eux ne faisait pas la différence entre une information vérifiée et une fausse nouvelle. Il y a là une béance dans la culture médiatique et démocratique transmise aujourd'hui. L'essor d'Internet et de ses messages politiques n'a été accompagné d'aucune éducation à la fabrication et à la vérification de l'information. C'est en train de changer, mais les dégâts sont faits. Comment faire d'Internet le dernier champ de bataille de la démocratie? Bonjour Romain Badoire.
Bonjour.
Romain Badoire, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy-Pontoise et co-rédacteur en chef de la revue Participation, que je salue au passage. Vos recherches portent sur les mouvements d'opinion, les mobilisations politiques et la participation citoyenne sur Internet. Le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui s'intitule « Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande ». C'est chez FIP Éditions, c'est sorti en 2017. Alors dans votre introduction, Romain Badoire, vous écrivez, je vous cite, la vision d'une technologie au service exclusif de la démocratie et de l'émancipation des citoyens relève autant d'un fantasme collectif que d'une réalité historique. Alors cette démocratie virtuelle, cette démocratie émancipatrice, fantasme ou réalité, on va en parler, mais je voulais quand même commencer l'émission comme ça.
Alors, un petit peu des deux. Le point de départ du livre, c'était vraiment cette idée que historiquement, on a toujours vu Internet comme un outil d'émancipation, un outil au service de la démocratie. Et puis, depuis le début des années 2010, on a justement un sentiment de désenchantement, de désillusion par rapport à ce potentiel démocratique. Et l'enjeu du livre, c'était d'interroger un peu ces différentes désillusions en mobilisant un certain nombre de travaux en sciences sociales pour voir si on pouvait, si se vérifiait dans la réalité ou pas. Sachant que, évidemment, même à ses débuts, même quand Internet était porté par un grand nombre d'espoirs de plus de démocratie, il y avait déjà de la désinformation sur Internet, il y avait déjà des discours de haine, donc il y avait aussi une part de fantasme assez importante derrière tout ça.
On a oublié, mais il y avait une origine à la fois militaire, mais aussi libertaire dans Internet, c'est-à-dire un espace virtuel sans frontières. Et aujourd'hui, on a, Internet doit avoir une vingtaine d'années, on a le recul nécessaire désormais pour voir ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. C'est ça l'idée, Romain Badoire.
Alors, effectivement, Internet a été conçu à la fois par des militaires et des ingénieurs qui étaient très marqués par la contre-culture américaine des années 60-70, et donc qui ont développé le réseau dans une certaine idéologie libertaire. C'est ce que Benjamin Loveluck appelle le libéralisme informationnel, voilà, un mélange de libéralisme économique et politique. Et en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui, moi je dirais plutôt que c'est la prolongation à l'extrême de cette logique de liberté totale d'informer et de prise de parole dans l'espace public, qui se traduit en fait par une forme de pluralisme radical où toutes les opinions ont le droit d'être exprimées, ont le droit de citer sur Internet, et en fait les désillusions que l'on a ou que l'opinion publique connaît ou que les médias connaissent aujourd'hui, elles sont plutôt liées au fait qu'on se rend compte que tout le monde s'exprime, tout le monde a des choses à dire, a des choses à faire valoir, des valeurs à défendre, mais que c'est peut-être pas celle qu'on aurait voulu voir mise en avant.
C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens se sont saisis, en tout cas, voilà, une partie d'entre eux, de ce forum virtuel, et on s'est rendu compte que une parole citoyenne éclatée, individuelle finalement, posait problème, mais notamment, et c'est ce que vous montrez dans votre livre, il y a un phénomène qu'on a tendance un peu à oublier, qui est la disparition des gatekeepers. C'est-à-dire qu'au fond, les journalistes, qui d'ailleurs sont tout le temps défiés et critiqués sur Internet, jouaient ce rôle de gatekeepers en filtrant les informations légitimes, les informations susceptibles de passer, et les autres. C'est ça aussi l'idée, Romain Badoir.
Ça, c'est vraiment la grande évolution de l'espace médiatique ces dernières années. C'est qu'effectivement, avant, les journalistes avaient, et les producteurs, les éditeurs, avaient ce pouvoir de filtrage sur l'information. C'est-à-dire que n'étaient publiées, donc n'étaient rendues publiques que des informations que les journalistes avaient validées, pour le dire vite. Aujourd'hui, c'est plus le cas, évidemment, sur Internet, on publie sans vérification. Par contre, cette fonction de gatekeeping, elle est maintenue, mais à travers les algorithmes, soit des moteurs de recherche, soit des réseaux sociaux, qui ne vont plus décider de ce qui est public ou privé, mais qui vont décider de ce qui doit être public ou visible. Et c'est ça vraiment la grande différence aujourd'hui.
Sachant que les algorithmes, on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent, et c'est des robots. Donc finalement, l'information, elle est plus humanisée dans sa plus-value.
Effectivement, c'est un ordre dans les informations qui est automatisé, en tout cas, même si on connaît un petit peu les critères qui sont auxquels répondent ces algorithmes, on a du mal à savoir exactement quelle dose de ces différents critères sont en place, et il n'y a pas de filtrage humain, en tout cas, derrière ces informations. C'est automatisé.
On a l'impression, Romain Badoir, d'un nivellement des propos sur Internet, et notamment le fait que l'importance de la source, alors par exemple pour les scientifiques, pour les médias, pour les journalistes professionnels, la source est importante. Là, on a le sentiment que la source ne compte pas, parce que ce qui compte, c'est le propos. Et ce propos, au fond, peut être mis en équivalence avec un propos qui a demandé un an de travail, 5 ans de travail scientifique, qui est pesé. Là, il y a un phénomène aussi, à côté de la fin du gatekeeping, il y a un phénomène de nivellement de tous les discours sur Internet.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment... C'est partie intégrante de la culture politique du web, cette idée que tous les internautes, parce qu'ils sont au même niveau sur le réseau Internet, doivent bénéficier du même statut dans la capacité à prendre la parole et à faire entendre sa voix. Sur la question des fake news, il y a effectivement cette idée que les fake news sont...
Les fausses
nouvelles sont une manière de prendre la parole dans l'espace politique également, de dire quelque chose, d'affirmer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de points de vue sur l'actualité. Et en même temps, elles sont aussi le symptôme d'une redéfinition des circuits de la confiance politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les citoyens font moins confiance, lorsqu'ils s'informent sur les réseaux sociaux, à la source, comme vous le disiez, qu'à la personne qui a partagé cette information. Donc soit c'est l'argument qui compte, et on partage l'information pour dire... Au final, je ne sais pas vraiment si cette information est vraie, mais je suis d'accord avec la vision du monde qu'elle véhicule. Ou alors, je la partage parce que je fais confiance à la personne qui l'a partagée avant moi, quelle que soit la source qui est mentionnée.
On est dans un entre-soi très particulier sur Internet, c'est-à-dire qu'on est, par le jeu aussi des algorithmes et des préférences politiques que vous indiquez, de la confiance dans la source, on est exposé globalement et quasi uniquement à des informations qui vont dans le même sens que ce qu'on pense, et donc on se retrouve vraiment dans une espèce de ghetto mental alors qu'on appelle homophilie, mais c'est le fait de n'être exposé qu'à des informations qui vont dans le même sens et qui correspondent à une identité de groupe. C'est ça l'idée, Romain Badoir?
Tout à fait. Ce débat autour de l'homophilie, il est assez ancien sur Internet, cette idée que les gens discutent entre internautes qui partagent les mêmes opinions. Il est revenu sur le devant de la scène lors de la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni en 2016 et lors de la campagne présidentielle américaine également en 2016, mais ce coup-ci du côté des réseaux sociaux. Avec cette idée que, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, on ne voit pas l'intégralité des publications de nos contacts. On ne voit en fait que 20% de ce qui est publié par nos contacts. Et comment Facebook fait le tri entre ce qui doit être porté à notre connaissance ou pas? Ben, en fonction de l'intensité des liens qu'on a avec les personnes en question. Donc, sur notre fil d'actualité Facebook, ne sont rendues visibles que les informations publiées par les gens dont nous sommes le plus proches. Et sociologiquement parlant, on sait que les gens dont nous sommes le plus proches, ce sont ceux qui partagent le plus nos opinions. Donc si on s'informe uniquement sur Facebook, le problème, ça va être justement d'être enfermé dans une bulle idéologique, comme on les a appelées, où les actualités, les angles, les valeurs défendues sont très proches des nôtres, alors que l'essence même du débat public, c'est qu'on puisse être confronté à des opinions diverses pour se faire notre propre opinion.
Oui, il faudrait un pluralisme. Ce que vous montrez dans votre ouvrage, Romain Badoir, c'est qu'on passe historiquement d'une propagande externe, c'est-à-dire celle de l'État qui va nous imposer des messages, des affiches, des rituels, etc., à une propagande interne. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des messages de nature propagandiste ou informationnelle marquée, mais qu'on s'impose à nous-mêmes ou que notre réseau nous impose.
Exactement, qui sont liés à des biais cognitifs, sociaux et psychologiques, donc qui sont vraiment liés à ce que nous sommes, mais qui sont rendus possibles par les algorithmes à la fois des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aujourd'hui, justement, cette propagande d'un nouveau type, elle n'est pas liée au contenu des informations qui circulent, mais aux architectures qui les font circuler et qui vont assurer aux internautes, comme on le disait, d'être toujours confortés dans leurs opinions.
Ça veut dire que c'est la structure d'Internet, plus que la nature des messages, qui va déterminer la circulation.
Oui, tout à fait. Je pense que vous comme moi, lors de la campagne présidentielle française, au final, on a vu passer sur Facebook ou Twitter assez peu de fausses informations ou de tentatives de désinformation. C'est sûrement lié au fait que l'on soit universitaire, que dans notre entourage, on doit avoir des gens d'un certain niveau d'éducation, etc. Alors que pourtant, elles ont beaucoup circulé, ces informations aussi. Et que d'autres citoyens français ont potentiellement été très exposés à ces fausses informations. Donc effectivement, il y a ces ressources techniques jouent un rôle en différenciant la manière dont l'information va aux citoyens.
Et donc avec des biais énormes. À propos de fausses nouvelles, de fake news, on va écouter et découvrir un personnage très étrange, Paul Horner. Il gagne sa vie en fabriquant des fake news. C'était dans l'émission de France 2, complément d'enquête consacré justement aux fausses nouvelles, qui a été diffusé cette année en 2017.
Donc apparemment, vous n'aimez pas Donald Trump.
Non, pourquoi ? Vous l'aimez, vous ?
Pourtant, toutes les fake news qu'il a écrites durant la campagne ciblaient les démocrates. Plagiant de vrais sites d'information, ses titres étaient des aimants à clic.
Le président Obama fait de septembre le mois des musulmans. Un agent des services secrets révèle « Obama est gay et musulman ». Hillary Clinton déclare Obama devrait accueillir deux fois plus de réfugiés musulmans.
Une petite obsession pour l'islam, car il sait exactement ce qui va mettre le feu aux poudres. D'après lui, les antidémocrates sont ceux qui relaient le plus d'informations sans les vérifier.
Je les voyais poster des trucs débiles. Les fanatiques de la Bible ou de n'importe quelle autre religion, les supporters de Trump et l'extrême droite.
Le business plan de Paul est assez simple. Il se rémunère grâce aux liens publicitaires sur ses différents sites internet. Plus il a de visiteurs, plus il a d'argent. D'après lui, il gagne entre 5 et 10 000 dollars par mois, mais durant la campagne, ce serait allé jusqu'à 18 000 dollars.
Pour chacune de mes histoires, j'essaie d'avoir au minimum 5 000 partages sur Facebook. Et si je les obtiens pas rapidement, je supprime l'article. Ensuite, je les poste sur tous les groupes de fans de Trump, et puis sur mes faux sites d'information, ABC, NBC, etc.
Cynique, Paul Horner, lui, affirme qu'il ne fait pas ça pour l'argent. À l'écouter, il aiderait même les citoyens à développer leur sens critique. Certains disent que les fake news et les gens comme vous ont contribué à faire élire Trump. Qu'en dites-vous ?
Tous ces débiles auraient voté pour lui de toute façon.
Et pour tous ceux qui ne comprennent pas qu'il s'agit de nouvelles satiriques,
Je m'en fous.
La valeur de l'homme, Internet, la dernière bataille démocratique, nous sommes en compagnie de Romain Badoir. Étrange, alors c'est un business qui rapporte de faire des fausses nouvelles, 5 à 10 000 dollars par mois en transformant, en utilisant les réseaux comme des tabloïdes, Romain Badoir.
Oui, ça c'est un aspect justement très original du phénomène que l'on connaît aujourd'hui, puisque les rumeurs ont toujours existé. Ce qui caractérise ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, c'est d'une part leur utilisation à des fins de propagande politique et d'autre part leur industrialisation parce que justement les réseaux sociaux font entrer ces fausses nouvelles dans l'ère de l'économie du clic. Et s'il y a autant de fake news aujourd'hui, c'est aussi parce que elles rapportent beaucoup d'argent, parce qu'elles sont beaucoup partagées. Le cas de Paul Horner, il est vraiment symptomatique de ce phénomène. Lors de la campagne présidentielle américaine, des journalistes de BuzzFeed s'étaient rendus compte que une partie importante de sites, on parle d'une centaine de sites qui produisaient des fausses informations pro-Trump, étaient localisés en Macédoine. Alors ils se demandaient pourquoi. Ils pensaient peut-être que l'équipe de Trump avait délocalisé la production de fausses nouvelles. Ils sont allés sur place et là ils ont été très surpris puisqu'ils sont tombés sur des adolescents de 15 à 17 ans qui n'avaient aucun intérêt pour la politique américaine, mais qui s'étaient rendu compte que en fait les fausses informations pro-Trump étaient énormément partagées sur Facebook. Ils se sont dit on va essayer de gagner de l'argent avec ça. Ils en ont créé eux-mêmes. En espérant que les internautes américains les partageraient, cliqueraient dessus et donc arriveraient sur leur site. Et une fois les internautes américains sur leur site, en les exposant à des contenus publicitaires, ils allaient gagner de l'argent. C'était des montants assez similaires puisque l'article de BuzzFeed parlait de 5 000 $ par mois alors que le salaire moyen en Macédoine est de 400 €. Donc, il y a vraiment un business de la fake news que permettent les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics tapent du poing sur la table en demandant aux propriétaires de ces réseaux de réguler un peu plus les contenus qui y circulent.
Donc on est dans quelque chose qui n'est pas spontané, qui n'est pas fabriqué comme ça par le corps collectif, comme certaines rumeurs qui se diffusaient nationalement pouvaient l'être. On trouve derrière ces fausses nouvelles, il y a toujours des acteurs, des entrepreneurs, alors plus ou moins politiques. Mais par exemple, on sait que désormais, il faut exister sur ces réseaux sociaux et que les équipes de campagne vont un peu mettre ce qu'on appelait avant des pots de banane, enfin vont essayer de balancer des infos complètement farfelues sur Internet en se disant il en restera toujours quelque chose, Romain Badoit.
Oui, c'est effectivement comme ça que ça marche. Au-delà des partis en campagne, on a des réseaux qui sont aussi très organisés. Alors, bon, là, je parlais du cas de la Macédoine ou Paul Horner. Ce sont des cas, justement, de réseaux qui ne sont pas organisés, d'entrepreneurs, qui cherchent à gagner un peu d'argent. En France, quand on parle de fausses informations, on est un cas particulier où on a vraiment des réseaux très organisés, de sites marqués à l'extrême droite, qui cherchent, justement, à produire des fausses informations dans le but de créer de la propagande politique et de faire du Hollande bashing quand François Hollande était président, aujourd'hui du Macron bashing. Et pendant la campagne, les décodeurs du Monde avaient fait un palmarès des fausses informations les plus partagées pendant la campagne française. De mémoire, dans les 10 premières, il y en avait 5 qui concernaient Macron, avec une campagne financée par l'Arabie Saoudite, ce genre d'informations, sa relation avec Mathieu Gallet, etc., etc., qui étaient des informations fausses, mais qui avaient été énormément partagées sur Facebook.
Macron a été obligé d'ailleurs, il l'a fait assez habilement, d'inclure ces rumeurs dans sa propre campagne en disant « Vous allez peut-être apprendre que j'ai une liaison avec un tel à tel, n'y croyez pas ». Donc là, il est aussi de la génération des réseaux sociaux, il a compris quelque chose là sur ces fausses nouvelles.
Oui, on entend encore dire des personnalités politiques « Mais il ne faut pas répondre à la rumeur, il faut la laisser parce que lorsqu'on lui répond, on lui donne du crédit ». Ça marche plus du tout aujourd'hui. Si on la laisse se répandre, ça ne fait qu'empirer le phénomène. Alors, lorsqu'on y répond et qu'on lui apporte un démenti, ça ne veut pas dire que ça va la stopper. C'est ça qui désespère beaucoup d'observateurs de ce phénomène. Mais pour autant, il faut apporter un démenti, il faut réagir vite. Alors, il y a un certain nombre d'études sur ce sujet qui essayent de définir quels sont les critères qui font que le démenti va permettre de stopper plus ou moins efficacement la propagation d'une fausse information, mais effectivement, Emmanuel Macron, on sent bien qu'il fait partie de cette génération où il connaît les codes de cette forme de communication.
Alors l'idée, là, en restant sur ça, hein, sur la manière d'essayer de contrer une fausse nouvelle, vous montrez dans votre ouvrage, Romain Badoit, qu'il existe des solutions, et notamment, donc effectivement, ne pas laisser la rumeur sans démenti, alors qu'avant, on hésitait à faire un démenti. Mais il y a notamment donc une solution possible, c'est de poster très rapidement une contradiction un peu argumentée sous un post sur Facebook, par exemple. Ça, ça marche, c'est-à-dire que ça vient tout de suite troubler ou dénoncer le premier message.
C'est ça. Alors, en fait, ce qui est important, c'est vrai sur Facebook, c'est vrai dans beaucoup d'autres espaces du web, dans beaucoup d'espaces de débat, c'est que la communauté a un poids très important dans la régulation du débat. Quand je dis la communauté, ce sont tout simplement les internautes qui sont en train de débattre d'un sujet à un moment donné. Des études montrent que lorsqu'on réagit rapidement à une fausse information, par exemple, si on a une fausse information sur Facebook, et que dans les premiers commentaires, on a un commentaire qui apporte un démenti, plus il vient tôt, plus il a de chances d'avoir un impact, plus il est sourcé, plus il a de chances d'avoir un impact, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire non, c'est faux, il faut dire c'est faux, voici un lien vers une information qui le prouve. Et ce qui va apporter du poids à ce contre-argument, ça va être le soutien de la communauté à ce commentaire, c'est-à-dire que tout simplement sur Facebook, si les gens like ou enfin, soutiennent par un like le commentaire, il va apparaître en premier et donc il va avoir plus de poids parce que les internautes qui n'auront pas d'avis sur la question, quand ils vont tomber dessus, ils vont voir qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le contre-argument et ils vont se laisser peut-être convaincre par celui-ci plutôt que par la fausse information.
Ouais, donc donner assez vite, administrer l'antidote assez vite une fois que le poison de la fausse nouvelle c'est répandu. L'idée aussi quand même que vous développez dans votre ouvrage, c'est qu'il faut essayer de renouer avec une éthique de la discussion qui était quand même le fondement démocratique et vous donnez un exemple auquel on ne pense pas spontanément mais qui est Wikipédia, puisque nous on voit, quand on va sur Wikipédia, la notice dans sa forme du moment, à un instant T, mais en réalité, on peut aller voir les discussions, c'est-à-dire qu'il y a eu, pour produire cette page, parfois sur des sujets difficiles ou polémiques, il y a eu de la discussion, ça marche sur Wikipédia, par exemple.
Ça marche très bien sur Wikipédia. Je n'ai plus en tête la quantité d'articles qui sont produits chaque jour. Wikipédia, c'est un espace où il y a énormément de conflits entre les rédacteurs dans la rédaction des articles. Quand les rédacteurs sont en conflit, ils peuvent aller dans l'onglet « Discussion », donc à côté de l'onglet « Article » sur une page de Wikipédia, pour discuter, se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut mettre tel élément, est-ce qu'il ne faut pas le mettre, comment on présente tel événement ou pas. Et là, encore, on invite la communauté des rédacteurs de Wikipédia à assister au débat, à la joute verbale et à se prononcer sur les différents arguments des parties prenantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vote pour dire qui a raison ou pas. L'idée, c'est de trouver un consensus. Il faut qu'on trouve une voie médiane pour se mettre d'accord. Et là, on pourrait se dire, mais c'est impossible que des partisans du PS ou des Républicains se mettent d'accord sur la rédaction de la page d'Emmanuel Macron, par exemple. Et bien pourtant, si, dans la très grande majorité des cas, les rédacteurs sur Wikipédia arrivent à se mettre d'accord dans le consensus, parce qu'il y a toute une éthique de la discussion, toute une gouvernance des débats sur Wikipédia que les rédacteurs respectent et qui leur permet de se mettre d'accord. Donc c'est pas impossible, en tout cas, de se
ça existe. Mais alors, effectivement, quand la culture démocratique s'effondre un peu, on arrive à ce que vous qualifiez de brutalisation du débat. C'est-à-dire qu'on a effectivement sur Internet, et on peut y être confronté assez vite, des phénomènes violents, de la haine, de l'intimidation collective, du bashing. Là, on est quand même dans un phénomène assez marquant qui est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nivellement, mais qui est lié aussi à l'anonymat, c'est-à-dire qu'on peut se lâcher, et si on est un peu militant, on va pouvoir aller troller, insulter, sans assumer des conséquences comme citoyen.
Alors, c'est pas forcément l'anonymat qui crée ça. Effectivement, on accuse souvent l'anonymat d'être responsable de l'agressivité dans le débat en ligne. Déjà, il faut savoir que l'agressivité, ça fait partie aussi des registres d'expression sur Internet. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y a une pratique de la discussion qui est plus virulente, agressive, et que les internautes, dans leur grande majorité, acceptent assez facilement. Et en tout cas, l'agressivité, dans la plupart des cas, n'est pas forcément un obstacle à la discussion, ce qui peut paraître contre-intuitif. Et là, quand je parle d'agressivité, je fais bien la différence entre l'agressivité, qui est une manière virulente, d'exprimer des arguments, et le harcèlement ou les discours de haine, qui là sont encore un autre problème, où vraiment on est dans l'insulte, la prise à partie, les propos racistes, homophobes, etc. Alors, est-ce que c'est l'anonymat qui est responsable de cette agressivité ? On pouvait le penser, on peut le penser, puisqu'effectivement, avec l'anonymat, on échappe un certain nombre de carcans sociaux et on est moins responsable de notre parole. Mais là encore, des études, notamment récentes réalisées en Suisse, montraient qu'aujourd'hui, les internautes avaient plus d'intérêt à être agressifs sous leur véritable identité parce que ça intégrait des formes de stratégie de reconnaissance. C'est-à-dire que si je prends à partie une personnalité politique et que je l'insulte ou que je suis agressif sous ma véritable identité, les autres internautes qui pensent comme moi vont me reconnaître comme une personne ressource qu'il va falloir suivre, qu'on va respecter dans le débat, etc. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément l'anonymat qui est responsable, ou en tout cas qui est le seul responsable de cette agressivité.
Ce que vous montrez dans votre ouvrage, Romain Badoir, c'est que on se politise quand même sur Internet. C'est-à-dire que cette fonction démocratique attendue d'Internet, elle existe. Alors, il y a des formes un peu paresseuses, hein, ce qu'on appelle le clicktivisme, donc je vais cliquer, je vais liker, mais il y a quand même des formes de politisation au sens où on peut aller se confronter à des discours. On l'a vu dans le cas des révolutions arabes, il peut y avoir des mobilisations par Internet. Donc, effectivement, la crise démocratique n'est pas absolue sur Internet. Il y a quand même des formes de politisation marquées.
Tout à fait, mais moi je suis pas si pessimiste que ça sur la situation démocratique d'Internet. Le c'est vrai que le titre, le désenchantement d'Internet, indique un certain pessimisme, mais l'idée c'était plutôt de voir est-ce que ce désenchantement qu'on sent dans l'opinion, il se révèle exact ou pas sur le terrain. Il y a des formes de politisation, il y a des formes de pratiques démocratiques qui sont très fortes, et Internet reste encore aujourd'hui une architecture au service de la liberté d'expression et de la démocratie. Mais il fait face à un certain nombre de menaces qu'il faut pouvoir prendre en considération. Sur la politisation, oui, et notamment les réseaux sociaux sont un vecteur de politisation important. C'est-à-dire que les internautes qui ne s'intéressent pas aux questions politiques peuvent, par le biais des informations véhiculées par leurs proches sur les réseaux sociaux, commencer à s'intéresser à des sujets politiques. C'était très fort pendant le printemps arabe, mais même avec les fausses informations, et vous-même vous le montriez sur la question du conspirationnisme, c'est aussi une forme de participation politique, et ces fausses informations peuvent être un vecteur de politisation ou d'expression politique à partir d'éléments imaginaires, justement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important.
Il y a une inquiétude qui revient, et on va terminer l'émission sur ça, dans votre ouvrage, sur le fait que les solutions à apporter à ces problèmes démocratiques sont gérées par des entreprises privées. Et donc là, ça casse la participation citoyenne. On a délégué ça à des gens qui, précisément, ne sont pas nos représentants, Romain Badoir.
Tout à fait, et ça, c'est vraiment la grande menace. C'est cette idée que les pouvoirs publics demandent aux propriétaires de plateformes de réguler eux-mêmes les contenus, et donc c'est une forme de délégation des pouvoirs de censure à des entreprises privées qui poursuivent leurs intérêts économiques. Et derrière ce problème de la désinformation en ligne, il faut vraiment faire attention aujourd'hui à ce que les solutions qu'on propose ne soient pas pires que le problème de la désinformation, c'est-à-dire que si dans quelques années, c'est Facebook qui décide qui a le droit de prendre la parole sur son réseau social, quel site est légitime ou pas, le problème sera bien pire.
Oui, là, on aura vraiment confié à des entreprises le soin de nous gérer démocratiquement. Merci
Exactement.
Beaucoup, Romain Badoir, de votre présence aujourd'hui. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le désenchantement de l'Internet. C'est publié chez FIP Éditions en 2017. Merci à Arnaud à la technique. Cette émission sera en podcast très bientôt sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. À bientôt.